Nous avons vu donc tout à l'heure la constitution de cette grande Babylone, cette résurgence, la résurrection de la grande Babylone sous nos yeux, et cette chute de Babylone est indispensable pour l'établissement du royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait cette crise dont nous avons parlé hier, cette crise qu'on appelle les douleurs de l'enfantement messianique, pour que le monde nouveau, le monde du royaume de Dieu, dont nous avons parlé ce matin, puisse s'établir sur la terre. Et ce faisant donc, Dieu apporte une contradiction dans ce monde qui se veut un, qui se veut harmonieux, qui se veut finalement une contrefaçon du royaume de Dieu. Parce que c'est ça la visée, créer un monde qui soit un monde bon, un monde où chacun puisse vivre heureux, et heureux sans Dieu essentiellement. Et de la même manière que Dieu était descendu dans la première Babylone pour confondre les desseins des hommes, de la même manière, Dieu descend aujourd'hui pour confondre. Et la contradiction de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile est ce qui va aussi frapper la statue, cette volonté de Dieu de porter la contradiction au centre des prétentions de l'homme. Dieu introduit dans ce monde son contraire justement qui est l'Évangile. Jésus n'était-il pas un signe de contradiction ? C'est ce qu'avait dit, annoncé Siméon à sa mère. Cet enfant est destiné à être un signe de contradiction. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Évangile, c'est la contradiction totale avec ses prétentions de l'homme de créer ce monde, ce grand village mondial. Alors, il ne s'agit pas ici de prise de position politique, ça n'a rien à voir, mais tout simplement parce que la parole de Dieu ne peut pas accepter la constitution d'un monde qui serait au contraire non pas ce paradis terrestre qu'on nous fait miroiter, mais qui serait un empire totalitaire à l'échelon de la planète tout entière, ce qu'il sera pour un court temps. Jusque maintenant, Dieu n'a pas permis que cela soit, mais au temps de la fin, Dieu permettra que cela soit pour un court temps. Et l'Évangile ouvre dans les prétentions de ce monde une brèche qui n'est jamais fermée. Et seul le chrétien peut empêcher cette brèche de se fermer totalement. C'est pourquoi, en tant que chrétien, dans ce monde-ci, nous allons arriver dans une situation extrêmement difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est annoncé aussi par la parole de Dieu, par le livre de l'Apocalypse, en particulier un temps où les tensions s'exaspèrent. Les tensions, en particulier contre les chrétiens fidèles s'entend, parce que justement, eux ne vont pas accepter d'entrer dans le système. C'est finalement le refus de porter la marque de la bête. La marque de la bête, qu'est-ce que c'est ? Alors, beaucoup de chrétiens sont extrêmement, comment dirais-je, attentifs à ces histoires de puces électroniques qu'on éventuellement placerait sous la peau, des mains, etc. Bon, il y aurait, paraît-il, des choses qui sont en cours dans ce sens-là, c'est bien possible. Si ça se faisait, bien sûr, ça serait dangereux, je n'en doute pas, mais j'ai l'impression que la marque de la bête, c'est infiniment plus grave que l'histoire d'une puce électronique. L'histoire de la marque de la bête, c'est finalement une contrefaçon des phylactères. Qu'est-ce que c'est que les phylactères ? Ce sont des objets qui sont utilisés par les Juifs pour la prière selon qu'il est écrit dans le chapitre 6 du livre du Deutéronome. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les inscriras comme un fronton entre tes yeux, tu les écriras sur les paumes de ta main. Et les Juifs ont pris ça à la lettre, c'était déjà comme ça du temps de Jésus. Jésus portait des phylactères, c'est évident. Et il y a deux phylactères, ce qu'on appelle les phylactères de tête et les phylactères de main. Qu'est-ce que c'est que des phylactères ? Ce sont des petits étuis de cuir noir, cubiques, à l'intérieur duquel il y a un rouleau sur lequel sont inscrits les commandements de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le phylactère de tête, qui est donc retenu par une lanière qu'on met autour ici de la tête, si bien que la boîte, elle vient se placer ici, sur le front. Et puis il y a le phylactère de main qu'on tient dans la main gauche, et avec une lanière que l'on entoure ici autour du bras. Quelle est la signification de cette coutume ? Eh bien, c'est qu'il s'agit de nourrir sa pensée. La tête, le cerveau, c'est le siège de la pensée. Donc il s'agit de nourrir son cerveau, il s'agit de nourrir son esprit des commandements de Dieu. Et si l'on pense bien, on agira bien. La main, c'est l'action. Le front, c'est la pensée. Donc je nourris ma pensée des commandements de Dieu pour agir selon les commandements de Dieu. Et la marque de la bête sur le front et sur la main, c'est une caricature, une contrefaçon des phylactères. Alors je ne dis pas que l'Antichrist va nous obliger à porter des phylactères qui seraient des phylactères diaboliques avec, disons, quelque chose de semblable à ce que j'ai évoqué, mais c'est une image. Ça veut dire que c'est un bourrage de crâne, c'est un conditionnement qui va se faire au niveau de la pensée et qui ensuite entraînera une action qui sera conforme à ce que l'Antichrist désire. Et de fait, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie, la grande apostasie. Ça, je vais revenir tout à l'heure sur l'apostasie, mais c'est l'idée d'entraîner tous les hommes dans une pensée unique, qui soit la pensée de l'Antichrist, qui soit celui du système mondial qui est en train de se mettre en place. Et finalement, la seule réalité qui peut empêcher ce système de se refermer, c'est l'évangile véritable. L'évangile prêché, l'évangile vécu, l'évangile pris au sérieux par les chrétiens. Et cet évangile-là nous empêchera forcément d'entrer dans les vues de l'Antichrist avec toutes les conséquences que cela provoquera. Je sais qu'il y a dans beaucoup de milieux une pensée qu'on appelle la pensée une pensée dispensationaliste qui prétend que nous allons vers un court temps d'épreuves que l'on appelle la grande tribulation qui durerait 7 ans. Et avant les 7 ans, au début des 7 ans, l'Église serait enlevée pour échapper à ces choses. Donc nous n'avons aucun souci à nous faire, nous échapperons à ces choses-là. Je suis loin d'en être sûr. Et je ne vois nulle part dans la parole de Dieu, je vous mets au défi de me montrer un seul texte, un seul, je ne demande pas 36, j'en demande un seul, qui laisse entendre qu'il y a 2 retours de Jésus. Un retour secret pour enlever l'Église et un retour public pour régner. Je ne vois qu'un seul retour. Et l'Apocalypse a été écrit non pas pour des gens qui seraient sur terre pendant la grande tribulation et qui auraient une deuxième chance, ça aussi c'est une doctrine extrêmement dangereuse, mais il a été écrit pour des gens qui devront passer par des épreuves difficiles. Et je crois qu'il ne faut pas nous faire d'illusions, nous allons vers des temps difficiles. Si nous voulons rester fidèles au Seigneur, nous allons vers des temps difficiles. Et Dieu intervient toujours quand l'homme arrive au sommet de son autorité, de son autonomie et de sa puissance. Il y a un défi de Dieu au défi de l'homme. L'homme est en train de défier Dieu, et bien Dieu va répondre. Dieu va répondre par son défi se manifestera par le jugement. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de cette tension, dans un temps où le refus de Dieu est total, où Dieu est tenu pour rien. L'homme est tellement puissant qu'il n'a plus besoin de ruser pour être vainqueur de Dieu. Il veut changer l'œuvre de Dieu, il veut changer ses lois, exactement comme l'Antichrist désirait le faire. Il veut changer l'homme. On est en train de vouloir nous créer un homme nouveau, avec des gens qui sont des apprentis sorciers, qui nous concoctent des lois telles que le gender pour manipuler les enfants dès leur plus jeune âge et en faire des hommes nouveaux selon leur conception. Et en apparence, l'homme a gagné. Il est le plus fort, il a gagné contre Dieu. Et de cette victoire-là, il est en train de mourir. C'est ça le drame. Et nous sommes aujourd'hui à un stade où la croix atteint sa dimension historique. Jésus est rejeté de tous les domaines, de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, de ce que l'on entreprend, de ce que l'homme réalise et de ce que l'homme construit. Dieu est rejeté, Jésus est rejeté, sans intérêt, sans signification, écarté de tous les domaines de la vie de l'homme. Et apparaît maintenant l'homme du péché, le fils de la perdition, l'apparition d'un système qui est un système divinisé, un système de l'Antichrist. Dieu est éliminé de notre société, remplacé par des idoles. Il y a mépris, dérision, insignifiance, abandon de tout ce qui appartient à l'Évangile. Et Dieu se révèle toujours quand il est humilié. C'est dans cette humiliation que Dieu intervient. Aujourd'hui, il y a une volonté d'humilier Dieu, mais Dieu ne se laisse pas humilier. Dieu va réagir. Et là, justement, il va y avoir des manifestations de sa puissance qui vont surprendre tous les hommes. Ce qui est important, et ce que je voudrais maintenant souligner, c'est justement revenir sur cette histoire de la marque de la bête. Une volonté de conditionnement, une volonté d'enrégimentement de l'homme. Et il nous est dit que la grande prostituée, la grande Babylone, eh bien, elle a à sa disposition, elle a comme visée de faire un trafic de corps et d'âme d'homme. Et on arrive maintenant au stade ultime de l'esclavage. Jusqu'alors, l'esclavage, c'était le trafic des corps. Aujourd'hui, on va plus, c'est le trafic des âmes. Il faut que l'homme soit conforme dans son esprit à la pensée officielle. Et celui qui ne s'y plie pas, on l'y contraindra. Et là, je voudrais maintenant lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 1er. Nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration ou par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ? Et maintenant, vous savez très bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de sa présence. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. C'est un texte terrible. Et c'est un texte qui nous parle en particulier de ce processus ultime, l'apparition de l'impie, ça veut dire de celui que nous appelons l'antichrist, mais que Paul n'appelle pas antichrist dans ce texte-là. Le mot antichrist n'apparaît que dans la littérature johannique. Mais ici, il est question de l'impie, du méchant, du révolté, exactement comme c'est le cas dans la tradition juive. Et il est question ici d'apostasie. Apostasie, ça veut dire la révolte. C'est quelque chose que nous trouvons dans Daniel et que nous trouvons déjà aussi dans l'histoire de la tour de Babel que nous avons lue tout à l'heure. La révolte qui préparera la venue de l'Antichrist. Et cette révolte, eh bien, elle touche aussi l'Église. C'est ça qui est inquiétant et important de souligner. Elle touche le monde, et ça je viens de le démontrer. Et nous avons vu que effectivement le monde est dans une situation dramatique par rapport aux choses de Dieu. Mais il en va aussi de l'Église. Et il y a un autre texte que nous n'allons pas lire en entier parce qu'il est trop long, mais qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 18. « Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole et me dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont délivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son nom était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et à sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. La suite, vous la lirez chez vous à tête reposée. Pour gagner du temps, je ne le lirai pas. Mais ici, il y a deux réalités. La bête que nous avons rencontrée déjà, c'est-à-dire le monde impie, le monde apostat, le monde qui a rejeté Dieu de son horizon, comme l'avaient fait les gens de Babel. Et puis ici, il y a une femme. Et il y a dans la Bible une dialectique à ce niveau-là entre deux femmes. Et on trouve ça notamment dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes nous met en scène deux femmes. L'étrangère, la prostituée, qui cherche à égarer celui que la Bible appelle le naïf, ça veut dire celui qui ne sait pas encore choisir entre le bien et le mal, et qui cherche à l'entraîner vers toutes les formes d'inconduite possibles. Et puis, au chapitre 31, il y a la femme vertueuse, au contraire, qui est exactement l'opposé de la prostituée. Et ces deux femmes incarnent deux réalités, la sagesse et la folie. La femme vertueuse représente la sagesse, la femme prostituée, l'étrangère, représente la folie. Vous retrouvez cette image dans toutes les apocalypses, et notamment, par exemple, dans la fameuse parabole des dix vierges, dont il est dit que cinq sont folles, donc représentées par la prostituée, et cinq sont sages. Bon, 5-5, ça ne veut pas dire forcément 50%, ça ne veut pas dire qu'au temps de la fin, il y aura une église qui sera à 50% fidèle et 50% infidèle. C'est tout simplement à cause des doigts de la main. 10, nous avons 10 doigts. 5 à la main droite, 5 à la main gauche. La droite, c'est ce qui est positif. La gauche, c'est ce qui est négatif. 5 à droite, ça veut dire les sages. 5 à gauche, ça veut dire les folles. Vous retrouvez cette même idée dans la parabole suivante du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, la parabole des brebis et des boucs. Le Messie qui revient au temps de la fin, eh bien, met les brebis à sa droite, du côté positif, et met les boucs à sa gauche. Donc ici, nous retrouvons cela. Et dans l'Apocalypse, nous retrouvons aussi finalement ces deux femmes, l'épouse de l'agneau, qui représente la femme vertueuse, et puis la prostituée, la fausse église, l'église apostate. Ça veut dire qu'il y a une église apostate au temps de la fin. Ça veut dire qu'il y a un risque que cette apostasie, qui est l'apostasie du monde, gagne également l'église. Et les lettres aux églises de l'Apocalypse sont une mise en garde, justement, pour éviter cette apostasie. Et finalement, les lettres de l'Apocalypse font une différence entre les vainqueurs, l'épouse et les apostats, c'est-à-dire la prostituée. C'est une situation évidemment qui est extrêmement préoccupante et qui est extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, justement, dans cette puissance de conditionnement, et Paul le souligne dans la deuxième aux Thessaloniciens que nous avons évoquée tout à l'heure, il y a une puissance de conditionnement sans précédent dans l'histoire. Et il est vrai que, par exemple, tous les moyens d'information, l'informatique, etc., a une puissance de conditionnement que nous commençons seulement à réaliser. Et moi, je suis effrayé quand je vois des jeunes et des moins jeunes qui passent leur temps à pianoter sur leur smartphone et sur les engins pareils, qui sont fascinés, hallucinés, séduits par tous ces moyens-là et qui, par conséquent, sont en train de recevoir, sans le savoir, la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Et ça vaut pour de nombreux chrétiens également, qui sont fascinés par tous ces moyens-là. Alors, c'est pas, on dira, c'est pas mauvais en soi, c'est l'usage qu'on en fait. On peut utiliser ça pour la Bible, pour diffuser la Bible. On peut utiliser Internet pour diffuser la Bible. Certes, c'est vrai. Mais le système en soi est extrêmement dangereux, est extrêmement pernicieux parce que on sait bien que c'est pas la diffusion de la Bible qui va prédominer dans ces choses-là. Ce sont d'autres réalités. Et insidieusement, sans même qu'on s'en rende compte, eh bien, c'est une perte d'autonomie, c'est une perte de sa liberté qui se fait petit à petit, c'est une perte de capacité de raisonner et de réfléchir sainement qui est en train de se manifester. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne vais pas prolonger plus longtemps parce qu'on arrive à la fin des 2 heures que nous nous étions fixées, je dois repartir. Je voudrais simplement terminer par l'expression d'une vision qu'avait eue un vieux serviteur de Dieu. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu. Il était pasteur, il a été de longues années pasteur à Dieppe. C'était un Danois, il s'appelait Ove Falg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ove Falg était un des premiers pionniers du mouvement de Pentecôte en France. C'était un des compagnons de la première heure de Douglas Scott. Et il avait d'abord été évangéliste au Danemark, dans les églises apostoliques. Là, il était sous la direction d'un pasteur ancien, jeune évangéliste en formation. À cette époque-là, les voitures, c'était un luxe que les jeunes stagiaires ne pouvaient pas se payer. Et par conséquent, un dimanche après-midi, à la demande de son pasteur, il allait faire un culte dans une annexe de l'église dans laquelle il servait le Seigneur, et il allait à bicyclette. Il pédalait sur sa bicyclette, tout en priant, évidemment, pour que le Seigneur bénisse la réunion qui allait suivre. Et soudain, il a eu une vision. Il a dû arrêter sa bicyclette, se mettre à genoux dans un fossé, et là, le Seigneur lui a montré une vision assez particulière, tellement qu'il a tellement impressionné que pendant des années, il n'en a pas parlé. Il a simplement, dans sa vieillesse, il a daigné parler de ce qu'il avait eu alors qu'il était jeune, cette vision qu'il avait eue. Il voyait au loin une grande croix. Bien. Et puis, c'était comme vous savez au cinéma, quelquefois ce qu'on appelle le travelling, la croix se rapprochait, il en distinguait les détails. Et en fait, il s'est rendu compte que cette croix était un bâtiment en forme de croix. Et la croix continuait à se rapprocher encore, et il s'est rendu compte que ce bâtiment, c'était une prison. Il y avait des barreaux aux fenêtres, il y avait une grande porte comme la porte d'une prison, etc. C'était une prison. Il est arrivé devant cette prison. Devant la porte de cette prison, un ange l'attendait et lui a ouvert la porte et a commencé à lui faire visiter la prison. L'ange a ouvert une première cellule. Et dans cette cellule, il y avait une messe catholique qui était en cours. Ah bon ? Bien. Deuxième cellule, un culte orthodoxe. Bien. Et puis ça continuait comme ça. Différentes dénominations d'églises historiques tenaient un culte dans une cellule de la prison. Puis il arrive dans une autre prison, un culte luthérien. Ça a commencé à l'inquiéter un peu, pas trop. Il avait été luthérien comme tous les Danois, mais finalement, il avait abandonné cette église quand il s'était converti. Donc ça ne le dérangeait pas trop, mais quand même, ça commençait à devenir un peu inquiétant. Puis un culte réformé, puis un culte baptiste, puis un culte méthodiste, et enfin, comble du comble, un culte pentecôtiste. Alors là, c'était quelque chose qui l'a impressionné, parce qu'il était pentecôtiste. Et à ce moment-là, il entend la voix du Seigneur qui lui dit ceci, « La grande prostituée ». Alors là, il était anéanti. « Quoi, Seigneur ? Mon église pentecôtiste, elle fait partie de la grande prostituée ? Mais ce n'est pas possible, on a toujours cru que la grande prostituée, c'était l'église romaine. Mais je ne comprends plus. Moi, je ne veux pas faire partie de la prostituée, je veux faire partie de l'épouse. » Et à ce moment-là, il s'est vu en dehors de la prison, à une certaine distance, et il a vu un terrible orage qui venait sur la prison. Et des éclairs, le tonnerre, et la croix-prison était recouverte d'une nuée épaisse noire d'où sortait cet orage terrible. Et l'orage s'est déchaîné, le bruit, les éclairs et tout ce qu'on voudra. Et quand l'orage s'est dissipé, la croix-prison avait disparu, elle avait été entièrement anéantie. Et une autre vision lui est substituée. Une immense prairie verte, avec un cours d'eau en bas, des milliers de moutons qui étaient en train de paître. Et la voix du Seigneur qui dit « Mon épouse ». Et la vision s'est arrêtée. Et là, je vous dis, il a gardé cette vision pendant des années et des années, sans en parler à personne. Et le sens de la vision, évidemment, était clair. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église, quelle qu'elle soit, que l'on est à l'abri de l'apostasie. Même dans les églises les plus fidèles, il peut y avoir des apostats. Et même dans les églises les plus éloignées de la parole de Dieu, les églises les plus infidèles, il peut y avoir des fidèles. Et ça ne dépend pas du tout de notre dénomination, de la dénomination à laquelle nous appartenons, ça dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Alors, ça c'était le message de Dieu pour ce temps. Ça c'était au début du réveil de Pentecôte, mais voyez-vous, c'était une question tout à fait actuelle. Et j'ai entendu dire par la bouche de ce même frère, M. Falg, que des prophéties un peu semblables auraient été données au début du réveil à la rue Azusa, à Los Angeles, en Californie, qui annonçaient au temps de la fin, justement, d'une apostasie sans précédent à l'intérieur, y compris des églises de réveil, y compris des églises de Pentecôte. Alors, je vais m'arrêter là, en disant ceci, que faire en face de la mise en place de ce système mondial divinisé? Eh bien, apporter au monde la contradiction de Dieu. Nous seuls pouvons le faire. L'Église a un rôle que personne d'autre ne peut réaliser et qui est essentiel et capital dans le temps dans lequel nous vivons. Il faut que nous prenions de plus en plus de distance vis-à-vis de ce monde-là en acceptant d'être étrangers, incompris, en attendant que Dieu descende. Dieu descende pour pouvoir accomplir son œuvre. Nous vivons à la fois une époque merveilleuse et une époque redoutable. Voilà, j'en ai fini pour ces études. Peut-être en 5 minutes, on peut avoir quelques questions encore.
Merci. Quelqu'un veut poser une question? Il y en aurait beaucoup. Hein. Peut-être quelques questions qui intéressent tout le monde. Là. Pas sûr que ça vous a
assommé.
Non, Lucie, qu'est-ce que tu te poses comme question? Non,
je précise pour les Malgaches là que M. Falk a été missionnaire à Madagascar.
Oui,
jusque très tard.
Oui, il avait 80 ans. Il avait,
je l'ai connu quand il était pasteur à Vietnam. J'étais allée chez lui avec mes parents.
Oui.
Bien sûr, c'est l'apostasie. Ça, c'est la définition même de l'apostasie. Essayer de ménager la chèvre et le chou et ne pas... Nous sommes dans un temps où les compromis ne sont plus possibles. Et là, actuellement, c'est le grand danger, justement, vouloir essayer de concilier ce qui est inconciliable.
Donc il faut être radical.
Il faut être radical dans un temps comme celui-ci, oui. Oui.
Alors, quelle attitude avoir avec le problème des immigrés
qui viennent
en France, dont certains sont des persécutés chrétiens, d'autres sont des persécutés tout court par la guerre. Quelle attitude il faut avoir, parce que la parole nous dit tu accueilleras l'étranger parce que toi-même tu as été à cet étranger. Les Juifs, quand ils font leur souka, c'est bien aussi l'une des significations. J'ai été étranger, j'ai été dans le désert, et je suis accueilli, j'ai été accueilli, Dieu m'a accueilli, donc j'accueille l'autre dans sa différence. En même temps, je suis convaincu qu'on ne peut pas être dans l'amalgame. Comment gérer cette affaire-là? Parce que, politiquement parlant, les décisions que les politiques doivent prendre, c'est bien de critiquer, mais en même temps, moi, je me mets à leur place. Enfin, je ne suis pas à leur place, mais quelque part, quelquefois, je l'ai été. Et ce n'est pas facile de prendre une décision adéquate et surtout qui plaise à Dieu, parce que moi, en ce qui me concerne, mon souci, c'est vraiment d'être dans la droiture de ce qui plaît à Dieu.
Alors, je vous dirai deux choses à ce niveau-là. La première chose, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un problème extrêmement délicat parce que... Il nous met en porte-à-faux vis-à-vis de nos propres valeurs. Bon. Deuxièmement, je vous dirais simplement ce que disait un prêtre orthodoxe que j'ai rencontré en Israël il y a quelque temps de cela, qui disait ceci, si vous voulez vraiment aider ces gens-là, aidez-les à rester chez eux. Ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, je vous citerai un autre texte de la deuxième aux Corinthiens, chapitre 8. Les bonnes dispositions, verset 12, quand elles existent, sont agréables en raison de ce que l'on a, mais non pas de ce que l'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y aura égalité, selon qu'il est écrit, celui qui en avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait peu ne manquait de rien. Alors, on arrive à un stade aujourd'hui où, manifestement, nous ne pouvons pas accueillir toute la détresse du monde. On ne peut pas. Autrement, et ça, l'Évangile ne nous le demande pas. On vient de le lire. Si nous avons de quoi aider les autres, on le fait. Sinon, on ne va pas prendre le pain de nos enfants, priver nos enfants, pour le donner aux enfants des autres qui ne nous en sont même pas reconnaissants. Puisque on sait bien que c'est une manœuvre. D'ailleurs, le fameux calife autoproclamé a annoncé qu'il allait nous inonder de migrants pour nous détruire. Donc il y a un plan diabolique de destruction, il ne faut pas qu'on soit naïf non plus. Alors moi je rejoins le père Nadaf, aidez-les à rester chez eux. Alors s'il y a vraiment des chrétiens qui sont dans la détresse, et, bon, pratiquons la charité envers tous, dira l'apôtre Paul, en priorité aux frères en la foi. Donc c'est cela qu'il faut aider en priorité, s'il y a des gens à aider. Et puis, ma foi, voilà.
Une autre question ? Yves, tu brûles d'une question.
Non, je ne suis pas très convaincu par votre réponse. Pardon. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet élément-là.
Je ne peux pas vous dire ça. J'ai fait toute une étude là-dessus, justement, à Sochaux la semaine. Exactement dimanche dernier. J'ai fait toute une étude sur ce sujet-là.
Parce que sur l'aspect de ce que disait le père, d'aider les gens là-bas, je pense qu'en France, effectivement, il y a un certain nombre de responsables qui ont dit qu'il faut aider les gens là-bas. Mais c'est difficile à faire.
Ben, c'est difficile à faire, c'est encore plus difficile de les aider ici.
On a eu toute une politique de coopération qui a, comment dirais-je, aidé, et ça je sais de quoi je parle.
Mais oui, bien sûr. Voilà.
On voulait imposer éventuellement des façons de faire qui ne correspondaient pas à leur façon de faire et qui les aidaient pas. Mais on a quand même eu cette politique-là, même ça on l'a fait, de vouloir les aider chez eux. La difficulté, c'est qu'ils sont là maintenant à notre porte. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les renvoie ? C'est ça.
Et si on les accueille, on va crouler. On va crouler sous leur nombre.
C'est
ce qu'on est en train de faire. Alors, ce n'est pas une solution non plus.
Une dernière question ? Côté-là,
moi, je suis vraiment impressionnée par votre analyse pour la marque de la bête, parce que j'en ai entendu de toutes sortes, mais ça ne m'a jamais beaucoup convaincue. Je ne sais pas moi, ce que je ressens à l'église, mais je pense que c'est vraiment le bourrage de crâne, comme vous dites, qui pousse à des actions qui sont conformes à ce que veut l'ennemi. Je trouve que c'est une définition vraiment qui parle, parce que je connais des tas de chrétiens qui cherchent la marque de la bête en Belgique, dans différents organismes, à l'ONU, etc., et ces petites puces, etc. Et finalement, ça distrait les chrétiens.
Voilà, exactement.
Ils ne voient pas que leurs propres enfants sont en train de se coller à l'image de la bête en se noyant complètement dans des jeux vidéo,
tout à
etc.,
fait.
Etc. Enfin,
tout à fait.
Tous les petits trucs de l'ennemi. Donc vraiment, merci, parce que ça fait des années que je pense ça et je me croyais seule à bien penser, mais non.
Est-ce que tu peux dire un mot sur le 666, parce qu'il paraît que...
Non, je ne peux pas dire là-dessus, non.
À Bruxelles, il y a...
Non. Là, ça, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas.
Voilà. Il y en a beaucoup qui cherchent sur les chiffres.
Alors, une toute dernière question, parce qu'il faut qu'on parte là.
C'est un rapport, c'est bien.
Eh bien, écoutez, je pense que le mieux on se passe de ces choses-là, le mieux on se porte. Pardon ? Bien sûr, on peut. Bien sûr, je sais. Je sais bien qu'on ne peut plus s'en passer. Mais c'est justement ça le piège de l'ennemi. Alors faisons le minimum, minimum, et puis le reste, n'en rajoutons pas, quoi. Pardon ? C'est les deux, c'est les deux, c'est les moyens d'information et puis l'information elle-même. Si vous voulez, c'est un lavage de cerveau, c'est un conditionnement, on vit une vie virtuelle, une vie réelle, coupée. Quand je vois, par exemple, je voyageais en avion il y a quelque temps de ça, à côté d'un jeune couple qui allait en voyage de noces ou qui revenait de voyage de noces, je ne sais plus trop, eh bien, chacun, dès que l'avion a eu décollé, ont sorti leur smartphone et puis ont commencé à jouer. Pendant tout le voyage, ils n'ont pas échangé une parole. Alors, vous rendez compte, au début de la vie conjugale, ça commence bien. Chacun était dans son monde virtuel. Alors, ce n'était pas dangereux en soi, c'était des petits carrés rouges, jaunes, verts, etc. Niveau maternel amélioré, vous voyez. Donc, c'était pas en soi quelque chose de négatif. Mais si vous voulez, c'est puéril, quoi.
Est-ce que les chrétiens ne devraient pas être des Wikileaks chrétiens, quoi, évangéliques ?
Non.
Et qui dénoncent ?
Je ne pense pas, parce que là aussi, quand on voit les dégâts que fait Internet sur le plan évangélique, on en parlait d'ailleurs hier, je crois, ou ce matin, je ne sais plus exactement, où beaucoup de chrétiens prennent sur Internet tout ce qui passe. On y a tout et son contraire sur Internet au sujet de l'Évangile, et si bien qu'on arrive à des aberrations, les gens ne sont plus du tout nourris par leurs églises, ils sont nourris par des gens, des illustres inconnus, mais du moment que c'est sur Internet, c'est donc vrai, c'est donc quelque chose qu'on peut adopter. Non, je crois que c'est là, pour moi c'est entièrement négatif.